Donc ça s'inscrit dans la suite des parchiotes qui parlent du Mishkan. On parle énormément du Mishkan dans la Torah. Et évidemment, la question, c'est que la description, c'est une description du Mishkan. Ça n'est pas la description du Beth Amikdash qui sera construit, par exemple, par Shlomo HaMelech. Donc, à quoi ça sert d'en parler si longtemps, si longuement, dans un tel détail, alors qu'on nous raconte quelque chose qui s'est passé, qui c'est plus du tout un enseignement pour le futur, ne servira à rien directement pour le futur. Le Ramban, dans l'introduction de son commentaire sur Shemot, il dit que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a les mitzvot et il y a les récits de la Torah. Ici, en l'occurrence, c'est un récit qu'on nous fait. Le récit de ce que Hachem a dit à Moshe, ce que Moshe a dit à Betsalel, ce que les Bnei Israël ont fait, etc., pendant cette construction. Et quelle est la fonction de ces récits? Ce ne sont pas des mitzvot. Ça ne nous dit pas, ça ne nous ordonne pas, on doit faire comme ça. Mais en fait, ça crée une ambiance, ça crée des valeurs, ça parle de valeurs. Et ça sera la tâche des Chachamim dans toutes les générations de s'inspirer de ces textes-là pour résoudre des problèmes nouveaux qui n'ont pas été explicitement traités dans la Torah et qu'il faudra résoudre à la lumière de, bien que ce ne soit pas une mitzvah. Il y a des mitzvot, qui sont des mitzvot, le dorot. Il y a des choses qu'on appelle le dorot. Par exemple, la mitzvah de la manne, manger la manne et ne pas en sortir le Shabbat pour aller en récolter, ça s'appelle une mitzvah de dorot. Pourquoi ça s'appelle mitzvah de dorot? Ben, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, je ne mange pas de la manne, malheureusement. Je sais pas. Et donc là, on est obligé de dire aussi que les mitzvot aussi, dans certains cas, la mitzvah était une mitzvah pendant un certain temps, puis ensuite c'est devenu un récit dans la Torah, à partir duquel, par exemple, à partir du problème d'aller Tseish Numimkomo, qui est dit dans le cadre de la manne, on apprend qu'on ne peut pas sortir comme on veut exactement, avec des. On ne peut pas porter dans tout Arabim, qu'on ne peut pas sortir pousse le Troum, etc. Choses qui ne sont pas explicitement dites obligatoirement dans la Torah comme telle, mais qu'on déduit de ce qui a été dit dans une circonstance tout à fait particulière. Donc il y a effectivement une espèce de changement. Quelque chose était une mitzvah à un certain moment. Puis ensuite, c'est devenu Torah, au sens où ce qu'on appelle Torah, c'est tous les principes qui nous disent comment Hachem veut que nous nous conduisions sans que ce soit prescrit à chaque fois. Il n'y a pas de prescription comme telle, explicitement. On parle du Mishkan avec tous les détails. C'est absolument terrible. Je crois que, j'ai pas compté, mais j'ai entendu une fois que la liste des kélim, de tous les ustensiles, il y a 9 fois la liste de tous ces kélim. Quand Hachem l'a dit à Moshe, quand Moshe l'a fait, quand Moshe l'a dit à Bezalel, etc. Ici, la paracha, elle commence, Vayakhel, le lachon kahal, c'est un lachon de, aujourd'hui, c'est un kahal, c'est une communauté. En fait, ça veut dire rassembler. Et cette idée de rassemblement, ça fait encore titre parce qu'on a encore dans l'oreille l'ordre donné par Esther à Mordechai. Knos kol ha-Yehudim rassemble les Juifs, en fait. D'ailleurs, Rachid dit que dans le Targum pour Vaïkaël, j'ai remarqué, c'est Knash, Wachnesh. C'est Knos, comme Esther l'a dit à Mordechai. Cette histoire de se rassembler, ça joue un rôle extrêmement important. Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé, mais dans le bilan de l'histoire de Pourim, les Bnei Israël ont fait trois choses très importantes. Il y a Mechiat Amalek, en tuant Aman, qui était Amalek. On a éliminé Amalek. Deuxièmement, les Bnei Israël ont été Mekabel la Torah. Comme vous savez, quand Hachem a proposé la Torah aux Bnei Israël, il y avait deux volets dans la Torah. Il y a Torah Shebirtav, Torah Shebaalpé. La Torah Shebirtav, les Bnei Israël l'ont acceptée tout de suite. La Torah Shebaalpé, ils étaient réticents. Et la Gemara, elle dit que HaKadosh Baruch Hu a retourné la montagne sur eux. Elle leur a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, Azchamte Kvuratrem. Ça veut dire, Hachem n'a pas dit, je vais vous écraser avec la Torah, avec la montagne. La montagne, elle était comme une ruche, enfin comme une demi-sphère, quoi, si vous voulez. D'accord? Et ça veut simplement dire que si vous n'acceptez pas la Torah, votre horizon sera complètement borné. Et vous allez crever comme n'importe quelle mouche qu'on a coincée en retournant un ver et elle n'est pas écrasée, mais elle va crever finalement. Votre horizon sera borné. La Torah, elle vient ouvrir l'horizon. Et donc, les Bnei Israël ont accepté quelque chose qu'on traduit en général, je pense que c'est pas très juste, mais on dit que c'est une acceptation sous la contrainte. La Gemara va dire qu'on aurait pu rétorquer à Hachem quand Hachem nous a punis pour les fautes que nous avions faites. On aurait pu lui dire, mais pourquoi je veux le punir? On n'a jamais accepté volontairement. Pas accepté volontairement la Torah. Donc pourquoi tu détruis le Beth Amikdash? Pourquoi tu nous punis? Pourquoi tu nous envoies en galoute? On n'a pas utilisé, les Bnei Israël n'ont pas utilisé cet argument. Peut-être parce qu'il n'est pas absolument gagnant. En tout cas, ils n'ont pas utilisé. Et à Pourim, ils ont accepté la Torah Shebaalpé sans contrainte, par amour pour Hachem. Par amour pour Hachem, qui leur a manifesté son amour en leur permettant d'échapper à la destruction, à la solution finale qui avait été concoctée par Aman. C'est la deuxième chose. Acceptation de la Torah. Et la troisième chose, c'est cette notion de Kahal. Ça, c'est nouveau, si vous voulez. Il faut comprendre ça de la manière suivante. Quand on a reçu les premières louchot, les louchot, le support et le ktav, et l'écriture, sont donnés par Hachem. Le deuxième louchot, le support, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui l'amènes. Donc, les deuxièmes Loukhot, c'est une association entre Hachem et l'Ibn Israël. Et d'une certaine manière, Pourim, qui est l'autre, le nouveau matin de Torah, c'est entièrement d'en bas, entièrement par les hommes. Et c'est la force, c'est Knos, c'est la notion de Keïla, la notion de les Bnei Israël ont compris quelque chose de nouveau, que la Torah, maintenant, il va falloir la produire tout seul, quoi, quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand les Bnei Israël, c'est juste à cette époque-là, ils vont avoir la permission de retourner en Eretz Israël, parce que personne n'ira d'ailleurs, mais et de construire le deuxième Beth Amikdash. Mais Chazal explique que les Bnei Israël en question, ils connaissaient plus rien de la Torah. Ezra, il leur a enseigné la Torah en araméen. Parce qu'en hébreu, on savait. Et pendant ces 70 ans, c'est très proche de ce qui s'est passé en Union soviétique. Ça a duré 70 ans aussi, les gens aussi oubliaient. Sauf quelques personnes, évidemment, mais là-bas aussi, il y avait des personnes qui n'ont pas oublié. Et il a fallu tout le redonner. On a même changé d'écriture à ce moment-là. L'écriture qu'on a, nous, cette espèce d'écriture ronde, douce, elle a remplacé une écriture qui était beaucoup plus pointue. C'est mal aux yeux. Et donc c'est un espèce de Kabbalat HaTorah. C'est un recommencement d'un clan d'Israël qui avait tout oublié et qui était très 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 loin, dans la mesure où, vous souvenez, on l'avait dit, que quand on dit que les Bnei Israël, cette solution finale qui leur a fait peur, finalement elle est venue parce que chez Nehemi, ils ont joui du festin de Achashverosh. Et là, c'est évident que on a une question. Dans le pire des cas, d'avoir mangé à ce festin. Ils ont mangé non cachère. Ils ont bu des vins qui n'étaient pas cachères. Dans le pire des cas, OK? Ça ne mérite pas la mort. Pourquoi ils meurent? Ils n'ont rien fait, ils méritent la mort. Alors, il faut se souvenir de ce que c'était que ce festin-là, ces 180 jours de festin. C'est un festin que fait Achashverosh parce qu'il pense que désormais, c'est lui le Dieu des Juifs. Quand le raisonnement d'Achashverosh, c'est Nebuchadnezzar a vaincu le Dieu des Juifs puisqu'il lui a détruit son palais. Donc il est lui devenu le Dieu des Juifs. Sauf qu'il ne l'est pas vraiment parce que le Dieu des Juifs a annoncé, c'est une prophétie de Yirmiya que tout le monde connaissait, qu'au bout de 70 ans, il allait récupérer le Dieu d'Israël va récupérer l'Ibn Israël. Et donc, tous les rois, là, ils font leur Hashbonot. Tout le monde sait que c'est 70 ans, mais ils ne savent pas à partir de quel moment il faut le compter, ces 70 ans. Mais Achashverosh, il est arrivé à la conclusion que les 70 ans sont passés et que, du coup, lui, il est le... Enfin, c'était pas vrai non plus. Même ça, c'était faux, mais je suis le descendant de Nebuchadnezzar. Donc, je suis, moi, le dieu des Juifs. Il est tout à fait cohérent, comme tous les fous sont cohérents à partir du moment où on admet leur folie de départ. Et ils mangent dans la vaisselle du Dieu. Ils amènent la vaisselle du Beth Amikdash et ils mangent dans la vaisselle du Beth Amikdash, puisqu'il est Dieu, donc il mange dans la vaisselle du Dieu. Et donc les Bnei Israël qui étaient dans ce festin-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dieu des Juifs, disons dans le langage de Achashverosh, le Dieu des Juifs les a abandonnés. les Bnei Israël qui sont à ce festin-là, quelque part, ils sont dans cette ambiance où on pense que bon, Dieu a abandonné les Juifs. Et donc, les Néhénoum, quand ils ont joué du festin, ça veut dire ils ont pensé, maintenant on n'a plus d'obligation du tout. Hachem, il a rompu l'alliance, il s'occupe plus de nous. Alors nous non plus, on n'a plus d'obligation. Et quand ils se sont aperçus qu'en fait Hachem avait continué de s'occuper d'eux, ils ont compris cette manifestation de l'amour d'Hachem pour eux. C'est dans sur cette lancée-là qu'ils ont accepté la Torah Shebaal Peh sans aucune contrainte à ce moment-là. Mais ça veut dire que il s'est passé quelque chose à ce moment-là, charnière. Bon, on a passé les premières louchot entièrement Hachem, les deuxièmes tout à foot. Et les troisièmes, entièrement les hommes. C'est-à-dire les hommes inspirés, bien entendu, par Hachem. Mais c'est ça, c'est la naissance de la Torah Shebaal Peh. Enfin, la naissance de l'explosion de la Torah Shebaal Peh. Il y avait la Torah Shebaal Peh avant, mais l'explose seulement à partir du Bayt Sheni, donc à partir de ce moment-là. Donc, Vaïkahel, c'est déjà cette notion de Kahal. Elle existe déjà dans la Torah. Moshe Rabbeinu rassemble tout le monde. Rashi dit, là on nous dit il a rassemblé tout le monde. Et Rashi, il veut préciser c'est quand qu'on a rassemblé tout le monde. Alors Rashi dit c'est le Machorat Yom HaKippourim. Que chez Yarad Minahar, on est quand? On est le lendemain de Kippour. À Kippour, mon cher Abénou est redescendu avec les deuxièmes loukrot. Et juste le lendemain, Hachem a donné les ordres concernant le Mishkan. La collecte des matériaux nécessaires pour le Mishkan, et on a commencé à construire le Mishkan à Sukkot. Ça, c'est Rashi. Le Ramban n'y pense pas comme ça, comme vous savez. Que le Ramban y pense que les choses sont écrites dans l'ordre chronologique. Rashi dit que le veau d'or, qui est écrit dans la paracha de la semaine dernière de Kitissa, il faut le voir beaucoup plus tôt, il faut le voir au moment de Matan Torah. On y trouve. Shvatim. Mais le Ramban, il pense que non, il est à sa place. Pour Ramban, évidemment, le Mishkan a été donné avant, Ouma, tu le savais, c'est avant Kitissa. Donc le Mishkan n'a rien à voir pour Ramban avec le Chet HaEgel. On a l'habitude d'interpréter ça à la Rashi, parce que c'est Rashi le commentateur principal. Mais le Ramban, c'est une montagne, hein, Ramban n'est pas d'accord. Et donc, il rassemble tout le monde. Et pour Rashi, ça veut dire, maintenant, il faut imaginer, on est au moment où ils viennent de recevoir les deuxièmes louchot, c'est-à-dire ils savent qu'Hachem a pardonné, et Hachem leur donne l'ordre de construire le Mishkan. Et du coup, ce discours-là, le Vayakhel, est à ce moment-là, le lendemain du jour où Moshe Rabbeinu est redescendu avec les louchot, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur dit? Voici ce qu'Hachem a ordonné et il leur parle du Shabbat. Il parle du Shabbat comme introduction au Mishkan, à la construction du Mishkan, il leur parle du Shabbat. Alors, il y a des endroits dans la Gemara où le Mishkan est cité avant Shabbat, et ici, le Shabbat est cité avant le Mishkan. Donc, on va traiter ce qui est ici, Shabbat avant le Mishkan. Que Moshe Rabbeinu leur explique que le Shabbat passe avant le Mishkan. C'est clair que on peut réfléchir. Le Mishkan, c'est la résidence d'Hachem. On pourrait très bien penser que pour construire la résidence d'Hachem, on met le Shabbat entre parenthèses. Le Shabbat, c'est montrer qu'on reconnaît que Hachem a créé le monde, etc. OK, mais maintenant on fait sa résidence, donc on pourrait le mettre. D'un autre côté, on pourrait dire, comment se fait-il que on pourrait envisager que la construction du Mishkan soit plus forte que le Shabbat? Mais quelques fois où, alors, c'est clair pour tout le monde, le fonctionnement du Mishkan se fait avec du Chilul Shabbat. Comme tous les jours, le Shabbat, on apporte un korban tamid. Shabbat, on apporte encore un korban, moussaf de Shabbat. Et on fait la shrita, c'est assur. Et on va brûler, c'est un holocauste, donc il est entièrement consumé. On peut dire que on aime le Shabbat. Vous me direz, mais au fond, quand on tue un animal, on aime Kalkel. Et quand on brûle, on aime Kalkel. Donc quand on aime Kalkel, on n'est pas Mechalel Shabbat Midoraita. Vous savez, si vous cassez la vaisselle le Shabbat, vous n'êtes pas chayav. Parce que vous avez été mekalkel, vous avez abîmé. Sauf que la Gemara dit que si tu casses la vaisselle parce que tu es en colère, alors comme le fait de casser la vaisselle, ça t'apaise, donc c'est plus un kélkoul, c'est un tikkoun. Donc tu es chayav midoraita. Donc, il ne faut pas casser la vaisselle quand vous mettez en cloche, pas le Shabbat. Alors, ici, on pourrait dire, ben, de manière, on ne fait rien de vraiment constructif. Donc, la mlacha qui est interdite Shabbat, c'est seulement les mlachot constructives. Mais comme on est metaken, comme c'est pour Hachem, c'est un tikkoun du monde. Donc, c'est un chilul de Shabbat. Mais quand on doit être Mechalel Shabbat, il y a des psukim pour ça. On fait la Mila le huitième jour, le Shabbat, si c'est le huitième jour, il y a un pasouk qui nous oblige à le faire ce jour-là. Est-ce qu'il y a une avamina que si quelqu'un il écrit un Sefer Torah, il peut écrire le Sefer Torah pendant Shabbat? On n'en rêve pas. Pourquoi on rêve que ça repousserait le Shabbat? Le Mishkan, pas de pasouk. En tout cas, c'est très très important parce qu'on nous dit ici quelque chose du Shabbat. Quelque chose de particulier. C'est écrit dans le passouk, Yelachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lachem. Donc le septième jour, ce sera un jour saint pour vous. C'est un jour de Shabbat, de repos, disons, pour Hachem. Et nous, sur le même modèle, nous aussi on fait Shabbat, puisqu'Hachem a fait Shabbat. Donc ici, comme introduction, comme on a dit au Mishkan, Moshe Rabbeinu met les Bnei Israël en garde sur l'importance du Shabbat. Mais le Shabbat, c'est une mitzvah, une mitzvah positive, Zachor, une mitzvah négative, Chamor. Mais au-delà d'être une mitzvah ou même des mitzvot, le Shabbat, c'est aussi un cadeau. La Gemara dans le Shabbat, elle dit que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, j'ai dans mon trésor, j'ai un super cadeau, qui s'appelle Shabbat. Va dire aux Bnei Israël que je veux le leur donner. Cette histoire que le Shabbat est un cadeau, on le voit par exemple dans le fait que la bracha qu'on fait Shabbat, sur le Shabbat, on fait une bracha sur beaucoup de mitzvot. On fait la bracha sur le shofar, on fait la bracha sur le lulav, la bracha sur Hadlakat HaNerot. La bracha sur le Shabbat, c'est le kiddush. Et dans le kiddush, on ne dit pas comme on dit d'ordinaire, Hacher kiddushanu b'mitzvotav, v'etzivanu al netilat lulav, ou il nous a sanctifiés par ses mitzvot, et qui nous a ordonné de faire la mitzvah de lulav. Ici, dans Shabbat, dans le Kiddush, on dit qu'il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Donc, qu'il chalou b'mitzvotav, que ratsa banu. Il nous a, ratsa, c'est, c'est-à-dire, il nous a agréés ou il nous a choisis, il nous a voulu, il nous a désirés. Et puis on continue et on dit, il nous a donné le Shabbat qui est Kadosh aussi, avec amour, avec grâce, comme un héritage. Donc Shabbat, c'est pas simplement une mitzvah. C'est quelque chose qui marque un autre type de rapport, si vous voulez. Chaque mitzvah est en rapport avec Hachem. Parce que le mot mitzvah, la graphie du mot mitzvah, même tsadik vavhe, ça peut se lire mitzvah, ça peut aussi se lire metzavé et aussi metzouvé. C'est-à-dire, ça se lit aussi bien sous la forme de celui qui donne l'ordre, celui qui reçoit l'ordre et l'ordre. Donc il y a une espèce de circulation. Quand on fait une mitzvah, il faut être conscient que cette mitzvah, c'est quelque chose, je suis en train de faire quelque chose qui est conforme à la volonté d'Hachem. C'est pas simplement je fais quelque chose de bien. Non. La mitzvah, elle vient d'un metzavé. Et moi, à ce moment-là, je suis Metsouvé. Metsouvé, c'est un statut. C'est un nouveau statut que nous avons reçu au Sinaï. Au Sinaï, le chidouche, ce n'était pas qu'on a reçu des mitzvot. Parce que les mitzvot, on avait déjà reçu à Mara. On avait 10 mitzvot très importants, dont Shabbat, d'ailleurs, donc Kibboud Av Va'em, Parah Aduma, justement, etc. Donc, bon, d'accord, c'est pas la même chose, 613 et 10, mais finalement, c'est presque quantitatif. Mais le qualitatif, on l'a déjà expérimenté d'avoir reçu les mitzvot. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on est devenu metsouvé. C'est-à-dire, nous sommes obligés. C'est-à-dire, voilà. On a reçu. Et une mitzvah n'est vraiment une mitzvah que si on la vit comme ça, que si on la vit comme un ordre qui m'est adressé, on a un ordre, vous pouvez dire, et en quelque sorte, quand moi j'applique, je fais ce que l'ami m'a demandé, je boucle la boucle. Donc c'est un circuit fermé entre Hachem et moi. Dans le Shabbat, il y a autre chose. Dans le Shabbat, ce qui circule, c'est ce cadeau. Il circule quelque chose qui nous dit, c'est pas simplement je vous donne des lois, la Torah, c'est d'ailleurs pas du tout une loi, mais bon. Ce n'est pas que je vous donne des ordres. J'accepte de jouer avec vous, d'entrer dans ce qui s'appelle un brit, une alliance. C'est ça qu'on a accepté au Sinaï, en fait, n'est-ce pas? Le Naaseh v'Nishma, on ne l'a pas dit sur les mitzvot, on l'a dit sur avant. On a accepté le brit. Sur le brit, on a dit Naaseh v'Nishma. D'un bride dont on ne savait pas du tout ce qu'il contenait et qui n'aura été scellé. Ça, c'était le 4 ou le 5 Sivan m'a accepté ça, le bride. La Torah elle a été donnée le 6 ou le 7 Sivan, seulement quelques jours après. Donc, on est devenu une espèce de partenaire avec Hachem et Hachem nous a agréés. Vous savez, ça veut dire agréé. Dans la Shemoneh Esrei, dans la Amida, après les bénédictions où on a demandé toutes sortes de choses, d'accord? Avant de passer à la Hodaa, il y a un Retse. D'abord, on demande à Hachem d'agréer nos demandes. Voilà, on a demandé, tu nous as appris qu'on pouvait demander, maintenant, agréer. Retse, accepte. Et après seulement, il y a la hodaa. Ensuite, il y a l'expression de la reconnaissance. Et après, bon, après il y a l'histoire du shalom, qui est le kli qui englobe les mitzvot, toutes les brachot, pardon. Donc ici, dans Shabbat, on a cette idée-là. C'est que Shabbat, c'est plus qu'une mitzvah, c'est plus qu'un. C'est pas simplement on est dans le système des mitzvot, c'est une mitzvah parmi d'autres, même si c'est une des mitzvot les plus importantes, si ce n'est la plus. Enfin, pas la plus. C'est une des mitzvot les plus importantes. C'est autre chose. Dans cette dimension de cadeau ou d'héritage, c'est quelque chose qui montre qu'on a un autre type de rapport avec Hachem. Pas seulement celui de Kitshanu C'est pour ça que on reçoit le Shabbat, il y a une notion de réception du Shabbat, on le reçoit comme un invité, quoi. Quand les kabbalistes de Tzfat ont inventé le Chagodi, bon, enfin, bon, la Gemara, elle raconte que les Tanaïm, déjà, ils sortaient pour accueillir le Shabbat, mais donc maintenant, ils l'ont mis en poème, enfin, Kabetz l'a mis en, enfin, Thomas Kabetz l'a mis en poème. Le chante, bon, donc c'est vraiment une réception, quoi, quelque part. On reçoit le Shabbat. Il n'y a pas d'autre mitzvah qui est reçue de cette manière-là. Donc, le Shabbat, comme on peut l'entendre ici, c'est enseigné comme étant quelque chose qui a lieu avant le Mishkan. C'est-à-dire, on va construire la résidence d'Hachem, mais il faut d'abord accueillir Hachem, en fait. Et accueillir Hachem, c'est savoir que lui nous donne un cadeau, et donc il faut accueillir. C'est nous, on est toujours dans la situation de celui qui reçoit. A priori, nous, on reçoit. Sauf que quand je fais ce qu'Hachem m'a demandé, en quelque sorte, je renforce Hachem, si on peut parler comme ça. La chaîne des Kabbalistes, c'est, comme on dit, on donne de la tenue, on donne de la puissance à Hachem en faisant les choses. Parce qu'Hachem nous a donné ce pouvoir de le faire. C'est ça qui nous, ça nous incombe, en fait. Mais d'abord, il faut le recevoir le Shabbat. Et du coup, si on reçoit le Shabbat convenablement, si on lui donne toute son importance, en fait, c'est censé rejaillir sur toute la semaine. Il y a des grands maîtres dont on disait qu'on voyait sur leur visage que c'était Shabbat. Il m'avait dit que sur Rabbi Yocham, on n'avait pas besoin d'avoir, il n'avait pas besoin de montre. Il changeait de visage au début de Shabbat. Et on disait ça du maître de Rabbi Yocham, l'auteur de Kelly. Bien sûr que dans le Shabbat, il y a un témoignage de ce qu'Hachem a créé le monde. Le Ramban dit que grâce au Shabbat, on se souvient de cette création et donc on reconnaît Hachem comme le créateur. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que les 39 melachot, ils sont interdits le Shabbat, montre que Hachem est le maître absolu et que ce jour-là, personne n'a de permission de créer quoi que ce soit. D'une certaine manière, une melacha qui est interdite, ça s'appelle melechet marchevet, un travail pensé. Les travaux qui sont interdits le Shabbat, Minatora, ce sont des travaux qui sont faits de façon artisanale. Si vous faites le travail de façon non artisanale, c'est assourd, mais seulement Midrabanan. Donc ça veut dire que je suppose que si moi, Shabbat, je plante un clou, je suis pas chayav de horaita, parce que je sais pas tenir un marteau. Des fois, ça arrive que du coup, il n'arrive vraiment pas sur mes doigts, mais sur le clou. Mais même quand ça arrive au bon endroit, je ne sais pas tenir le marteau comme un artisan. Quand il tient le marteau, vous voyez très bien que c'est autre chose. Ça s'appelle pas Melachet Marchevet. Donc, c'est ça, Shabbat. Donc une Melachet Marchevet, c'est une création. Un artisan, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui. Bon, dans ce qu'il fait, c'est ça la création. Cette création-là, elle est interdite Shabbat. Pour laisser toute la place au créateur. Bien que on n'a pas d'ambiguïté, le mot création, le créateur pour Hachem, en plus, c'est pas non plus un mot adéquat, puisqu'il n'y a aucun mot qui soit adéquat, mais disons, nous, on fait attention de ne pas créer Shabbat. Et donc ici, quand on nous dit que le Shabbat vient avant, il est plus important que le Mishkan, que la résidence d'Hachem. Parce qu'effectivement, l'important, c'est de reconnaître Hachem et de demander et de comprendre que Hachem vient comme on dit dans le passouk, il est karov, il est toujours proche, et il est vraiment proche si on l'appelle vraiment, en vérité, pour Bémet, alors il est encore plus proche. Et donc c'est prendre conscience de cette proximité qui permet effectivement de recevoir le Shabbat comme témoignage de, donc du coup de témoigner nous sur la création. Donc c'est plus important que construire la résidence d'Hachem. Et puis il y a sur ce Shabbat, sur cette mention du Shabbat, il y a là quelque chose de tout à fait important. Le passouk dit que le Shabbat, c'est un Shabbat Shabbaton, Hachem et kol ha'oseh bo melacha yumat. Toute personne qui travaillera, il fera le Shabbat une de ses melachot, melechet, il est passible de mort. Alors, la peine de mort, c'est comme toujours, la peine de mort, c'est toujours après que la personne ait été avertie par deux témoins, deux juifs cachers qui ne sont pas en famille l'un avec l'autre, qui ne sont pas en famille avec celui qui va faire la faute. D'autres termes, ça veut dire que si quelqu'un est Mechalel Shabbat devant Moshe Rabbeinu et Aaron, il risque rien. Ils sont pas cachers comme témoins ensemble. Ils sont frères. Ils peuvent pas témoigner ensemble, Moshe Rabbeinu et Aaron. Donc ici, il faut un avertissement par deux témoins qui lui disent, d'abord que c'est interdit, qui lui disent ce qu'il encourt s'il transgresse, et il faut qu'il réponde, lui, à Menatken le faire en toute connaissance de cause. Et il faut qu'il agisse dans les secondes qui suivent l'avertissement. S'il agit 5 minutes après, on ne peut plus rien faire. Là, j'ai oublié l'avertissement. Je ne peux pas le comprendre. On ne pourra pas le condamner. C'est toujours vrai sur toutes les peines corporelles, que ce soit des makot ou que ce soit la mort. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Donc la peine de mort est, comme vous comprenez bien, elle est pratiquement académique. Au point qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a quatre sortes de peines de mort dans la Torah. Ce n'est pas le sujet maintenant. Mais ce qui est important, c'est que il y a une phrase supplémentaire ici qui dit. Bon, toujours sur le Shabbat. Il y a une phrase qui dit Lot va'aruesh bechol nashmotechem biyom Shabbat. C'est-à-dire, vous ne ferez pas de feu dans vos résidences, là où vous habitez, le jour du Shabbat. Dans la Torah, quand on parle des melachot de Shabbat, c'est toujours marqué l'otasse kol melacha. Il n'y a pas d'exemple de quelle melacha est interdite. Il y a 39 melachot, mais il n'y en a pas, à part ici, il n'y en a aucune qui est citée dans la Torah telle qu'elle. Au point même que l'otasse kol melachot, ou kol melacha, on peut entendre là que l'interdit seulement de faire tous les travaux interdits. Si on fait, on est passible de mort, etc., que si on a fait les 39 travaux. Une avamina, c'est, on a pensé comme ça. Alors tout de suite, on va expliquer. Le problème qu'il y a avec ce verset, c'est écrit Lotvaru. Dans la Torah, quand quelque chose est interdit, en général, c'est marqué tu ne feras pas. L'eau, la médaille. Ça s'appelle un lave. Et la sanction, quand on transgresse un lave, c'est makot. C'est 39 coups de poil. Ils sont en général pas 39 coups non plus, puisque comme vous savez très certainement, quand on condamne quelqu'un à 39 coups, Il passe d'abord une visite médicale. Le médecin doit dire combien de coups il peut supporter. Et puis ensuite, le nombre de coups doit être un multiple de 3. Parce qu'on donne 3 coups, 2 coups sur le dos et le bas du dos et un coup devant. Donc si le médecin dit qu'il peut supporter 20 coups, on lui en donnera 18. Et si le bourreau donne un coup de plus, il est khayav. Ouais, il n'est pas tout seul à compter, hein. Il y a des gens qui comptent avec lui. C'est de là d'ailleurs qu'on apprend l'interdit de frapper quelqu'un. Oui, aussi, je peux aussi. Alors le problème ici, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. On a dit que sur une melacha, on est passible de mort. Et ici, on nous donne un seul exemple, et il n'est pas passible de mort. C'est marqué lo, et un lo, c'est seulement des makot. Donc c'est contradictoire. Alors en vérité, sur ce verset, beaucoup de choses ont été écrites. Et il y a au moins deux interprétations. Il y a une interprétation qui se contente de dire qu'effectivement, cette melacha qui est citée ici est une exception. Parce que faire du feu, ça n'est pas encore constructif. Ce n'est pas une vraie melacha. Mais comme c'est une melacha, comme c'est un travail qui est nécessaire pour énormément de melachot, bon, ce qui concerne bichoul et autres choses, alors ça a une importance et c'est interdit. Mais comme ce n'est pas une vraie melacha, on n'est pas passible de mort, on reçoit seulement des coups. Mais l'autre explication, elle vient dire autre chose. L'autre explication, elle est basée sur cet Hava Amina, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser à cette idée que il n'y aurait transgression du Shabbat que si on a fait toutes les melachot. Et donc, le fait d'avoir sorti cette melacha-là et dire qu'il y a une sanction sur celle-là, c'est vrai que ce n'est pas la peine de mort, mais il y a une sanction sur celle-là. Ça nous permet de comprendre que si on fait une seule des melachot, n'importe laquelle, a priori, on est chayav mita. C'est pour savoir qu'on n'a pas besoin de transgresser les 39 pour être chayav mita, on est chayav mita sur chacune d'entre elles. Et ça, on l'apprend de ce verset qui nous montre qu'il y a une melacha sur laquelle il y a une sanction alors qu'elle est toute seule. Yaakov Kamenetsky, qui est un des Gdolim en Amérique, il commente ce premier verset et il dit que le Hegel, le veau d'or, c'était le contraire de Matan Torah. Parce que à Matan Torah, au don de la Torah, Hazal ont dit, Vaychan Israël ki ish echad belev echad. Alors, vous vous souvenez, les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ne formaient pas un peuple. Ils étaient, je ne vais pas dire ramassis parce que c'est pas, c'était un amas d'individus, si vous voulez. Il n'y avait pas de lien entre eux, parce que chacun était occupé à chercher son souffle. Donc, quand tu cherches ton souffle, t'as pas obligatoirement de relation avec l'autre. T'as pas de relation du tout. Donc, ils n'étaient pas un peuple du tout. Ils étaient, il y avait rien, il n'y avait pas d'embryon de peuple non plus, il n'y avait rien. Les Bnei Israël ne seront un peuple qu'au pied du Sinaï. Quand ils vont arriver dans le désert du Sinaï, bon, ils vont sortir d'Égypte, ils vont franchir la mer, et 50 jours après être sortis d'Égypte, ils vont se retrouver au pied du Sinaï. Et au pied du Sinaï, le texte dit d'abord, Vayachanu, ils ont campé là-bas. Ils ont campé, c'est le chacun campé de son côté. Et tout de suite après, dans le verset, c'est marqué, Vayichan Israël, Israël a campé, au singulier. À ce moment-là, ils sont devenus un peuple. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah n'a pas été donnée aux individus. La Torah, elle a été donnée au peuple, dans sa totalité. Et quand on parle ici de devenir un peuple, vous voulez que c'est en fait fabriquer quelque chose de tout à fait particulier. Désormais, il y a une notion qui deviendra une notion abstraite quasiment, qui va s'appeler Klal Israël. Il n'y a pas le Klal Israël de l'époque de Moshe, le Klal Israël de l'époque de Rabbi Akiva, le Klal Israël de l'époque du Shulchan Aruch, du Gaon de Vilna et nous. Il y a un seul Klal Israël qui est hors du temps et qui est habité successivement par les générations. Nous habitons cette notion abstraite qui s'appelle Klal Israël. Et ça, c'est né au pied du Sinaï. Et cette notion-là, cette notion de Klal Israël, vous voulez, elle vient avec le don de la Torah. Bon. Pour recevoir la Torah, il a fallu être un peuple. D'accord? Et c'est aussi la Torah qui ne fait de nous un peuple. Avraham Avinu, il dit, on n'a rien d'un peuple. Tout ce qui nous unit, c'est uniquement la Torah. Qu'est-ce qu'un juif de Finlande a à voir avec un juif du Yémen? N'a rien à voir. C'est pas du tout la même civilisation, c'est ils ont la même Torah. Et ça, tout ce que nous avons, qui nous lie vraiment, c'est uniquement la Torah. On n'a rien d'autre. Mais par la Torah, dans la Torah, on a compris qu'il y avait une notion de ce clan d'Israël, et en petit, c'est cette notion de Kahal. C'est ce que je vous ai dit sur Purim. D'accord? Ça veut dire Knoset Kol HaYehudim, ça veut dire ce que Haman disait, c'est ces gens-là, ils sont complètement dispersés. Il n'y a pas de solidarité. Ils sont là, là, alors, on peut les tuer sans problème. Ce qu'il fallait empêcher, une façon d'empêcher qu'on tue des individus, c'est de montrer que ce n'est pas des individus, qu'ils forment un clan, qu'ils forment un tout. C'est ça. Pourquoi Knoset Kol HaYehudim? On aurait pu le dire simplement à Mordechai. Ordonne aux gens de jeûner. Pourquoi il faut les rassembler? Ce qui était fondamental, c'est qu'ils fassent les choses ensemble. Ce n'était pas tellement le jeûne qui était important, c'est l'être ensemble. Si on veut. Après, il fallait payer de sa personne sous forme de jeûne. Donc, en fait, Matan Torah, c'est vraiment cette idée de Vayichan Israël, cette unité du clan Israël. C'est comme ça qu'on peut dire, dans le Zohar, il y a quelque chose qui est à peu près pas exactement comme ça que c'est dit, mais tout le monde le cite toujours comme ça. On dit que Oraita et Klal Israël, c'est Chadou. C'est un peu toujours aussi, mais bon. Que la Torah et le Klal Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est dans un portrait chinois. D'accord? Si c'était un peuple, ce serait le peuple d'Israël. Si c'était des chrétiens, ce serait la Torah. Bon, c'est la même idée. Et d'une certaine manière, ça devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que ça incombe de plus en plus au peuple d'Israël de fabriquer cette Torah. La Torah, c'est toute la Torah orale, c'est Alvé de Rabbi Akiva. Les 5 ou 7 élèves de Rabbi Akiva, ils nous ont transmis l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est ça la Torah orale, aujourd'hui. Pas comme toujours. Non? Alors ça a été enrichi. Plus on étudie, plus on enrichit la Torah. Et ça continue aujourd'hui. Tout. Alors il dit, le Hegel, c'est exactement le contraire. Parce que dans le Yerushalmi, c'est marqué qu'en réalité, il n'y avait pas un veau d'or. Le Yerushalmi dit qu'il y avait 12 veaux d'or, un par tribu. Et le lachon de l'expression dans le Yerushalmi, c'est de dire Ve'avu le'elakut arbe. Ils ont désiré beaucoup de divinités. En fait, connais, il y a Elohé Moab, il y a les Elohé Edom, etc. Mais quand on en parle en général de vue de notre côté, qu'est-ce qu'on dit? Elohim Acherim. Ce sont les autres dieux. C'est-à-dire qu'en fait, chaque peuple a son dieu, en fait, qui est spécifique et qui le dieu de chaque peuple, c'est celui qui traduit dans son langage particulier le flux des bontés d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem envoie et chaque peuple reçoit à sa manière. Chaque peuple a, moi je dis que qu'on appelle le dieu de chaque peuple, c'est sa culture. Ça veut dire, c'est sa langue, c'est sa façon de danser, sa façon de chanter, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, son écriture, sa sensibilité, etc., dans tous les domaines. C'est spécifique à chaque peuple. Donc, Hachem envoie, et ça ne peut être reçu par chaque peuple que si on le formate pour lui, quoi. Sinon, les seuls qui n'ont pas de Dieu, de ce point de vue-là, c'est nous. Parce que nous, on est branchés directement sur Hachem. On n'a pas de Dieu intermédiaire. Eux, ils ont un Dieu intermédiaire qui formate les choses pour qu'ils puissent les recevoir. Et nous, on reçoit la totalité, quoi. On est censé débrouiller. En ça, on est associé à Hachem. Alors il dit, ça veut dire que entre les Shvatim, entre les différentes tribus, il y avait des opinions différentes. Et donc, quel Dieu on va choisir? Il faut remplacer Moshe. Lequel on va choisir? Chaque tribu dit, j'en ai un, moi j'en ai un. Comment on va choisir? On ne peut pas choisir, en fait. Donc, ils n'ont pas choisi, chacun a fait le sien. Donc, quand mon cher Rabbeinu est venu dire au peuple d'Israël de faire un Mishkan, une résidence d'Hachem, Le premier travail que Moshe a dû faire, c'est de rassembler les gens. Pour que ils se mettent d'accord, enfin, bon, quasiment, on va les obliger à se mettre d'accord sur un endroit, parce que sinon, ça aurait été la même chose. On va y construire 12 Mishkan. Chacun ayant un dieu, ben, et chacun aura une résidence pour son dieu. Donc, c'est ça l'importance de ce Vayakhel qui précède. Qui précède le Shabbat, quoi. Qui précède le Mishkan. Avant de parler du Mishkan, d'après Rashi en tout cas, il a fallu d'abord fabriquer de l'unité, les mettre d'accord. Après le Vaudor, bon, d'après Rashi, on est après le Vaudor, oui. Donc c'est ça l'importance finalement d'avoir un seul endroit. Finalement, on a supprimé les hôtels domestiques, on a supprimé les hauts lieux qui étaient à tel ou tel endroit. Hachem a dit, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez apporter les korbanot, c'est à Yerushalayim. Et puis après, ben, et aujourd'hui, ben, il n'y a pas d'endroit. Je sais pas. Et le travail, c'est le travail d'unité aujourd'hui. C'était, l'unité, elle se faisait d'une certaine manière autour du Beth Amikdash. Tout le monde allait au même Beth Amikdash. Et ils étaient représentés par quelqu'un qui faisait tout le travail. À Yom Kippour, le Kohen Gadol faisait tout le travail. Aujourd'hui, Yom Kippour, c'est pas ton travail personnel. Personne ne le fera pour toi. D'une certaine manière, ça peut être vu comme on a perdu quelque chose, mais d'un autre côté, on a accédé à un âge adulte, quoi. Au lieu d'être, hein, comme des enfants où on fait les choses pour eux, pour les faire eux-mêmes. C'est ça la nouveauté, c'est ce qu'Ezra a enseigné, la Torah d'Ezra, en quelque sorte. La Gemara, elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra. Tellement il était grand. Et encore un deuxième point. Quand Rashi dit que ça se passe le lendemain de Kippour, en vérité, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Gimel mitzvot nistavu Israël beknisatan laaretz. L'Eretz Israël, pardon. Les Bnei Israël ont reçu trois mitzvot au moment où ils sont entrés en Eretz Israël. Après, sur la direction du Yoshua, à ce moment-là, ils reçoivent trois mitzvot. Une première mitzvah, l'Amid l'Ahem Melech, de se décider sur un roi, de nommer un roi. Deuxièmement, l'Achid Zaro chez l'Amalek. Deuxièmement, éradiquer Amalek. Et troisièmement, l'Ibnot Bet Aprira. Troisièmement, construire le Bet Amigdash. Donc on voit ici que la construction du Beth Amikdash, a priori, c'est la dernière des choses à faire. Il y a deux choses à faire d'abord. Le roi et Amalek. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Quand, ici, on voit que quand Hachem leur a pardonné la faute du Vaudor, ils ont reçu l'ordre de construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Et donc, comment c'est possible que l'ordre a changé? qui normalement devait être fait uniquement. D'abord, premièrement, je ne pose pas la question ici, mais premièrement, il y a une première question, c'est que tout ça, c'est seulement quand on arrive en Eretz Israël. Ils ne sont pas en Eretz Israël quand ils construisent le Mishkan. Donc, Bichlal, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu poses comme question? Le Mishkan n'est pas. C'est pas seulement qu'il n'est pas dans le bon ordre. Normal, on n'a pas reçu d'ordre de construire un Beth Amikdash dans le désert, à ce titre-là, dans le cadre des trois choses. C'est une loi à part, Hachem a donné cet ordre à part. Et lui, il explique que la raison, c'est justement à cause de la faute du veau d'or. Parce qu'à partir du moment où les Bnei Israël ont dégringolé et que quand ils ont vu qu'ils étaient sans Moshe, il n'y avait pas de leader, il n'y avait personne pour le diriger. Pour très très peu de temps, quoi. On était sur quelques minutes de décalage. Immédiatement, ils en arrivent à faire le Hegel. C'est pour cette raison-là qu'ils avaient besoin du Mishkan. Parce qu'il fallait que si les Bnei Israël ont besoin de prier à Hachem, ils trouvent tout de suite un endroit où aller, où ils peuvent se connecter avec Hachem. Shlomo HaMelech, quand il a inauguré le Hamikdash, il a dit, dans sa prière, il a dit, Veit palu elecha derech artsam. Il faut que les Bnei Israël puissent, sur leur terre, quoi, directement se connecter avec Hachem. Vous voyez, les Bnei Israël ont compris qu'ils avaient absolument besoin de quelqu'un, c'était Moshe qui jouait ce rôle-là jusque-là, pour assurer la connexion entre eux et Hachem. Et ils ne pouvaient pas rester ne serait-ce qu'un instant sans connecteur. Du coup, ils ont fait le veau d'or. Alors, puisqu'ils sont à ce niveau-là, Hachem a dit, OK, alors, dans ce cas-là, il faut faire un Mishkan tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Séance tenante, tout de suite, on fait un Mishkan. C'est-à-dire, un endroit où vous allez pouvoir aller et vous connecter. On se connecte dans le Mishkan. Pour Ramban, le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. Pour Ramban, crois que tout le monde pense comme ça au fond, que le Sinaï, ce n'est pas un événement qui a eu lieu une fois. C'est un processus qui s'est mis en marche à ce moment-là, mais dans la mesure où c'est le don de la Torah et que la Torah, elle se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire que on est toujours en train de la construire. Elle se donne à nous, la Torah. Elle se donne parce que c'est nous qui la produisons. C'est notre job, quoi, de faire ça. C'est ça le job des Bnei Israël. Les Israël, ils doivent être, c'est ça qu'il aurait annoncé, vous serez, quand les choses seront faites comme elles doivent être, vous serez Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. C'est même la fête Kohanim. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font, les Kohanim? On a l'habitude de dire toujours que les Kohanim, c'est des prêtres. Ils travaillent 15 jours par an. Il y a 24 groupes de Kohanim. Donc, ils travaillent 15 jours par an. Bon, il y a des jours où tout le monde est sur le pont, mais en gros, ils travaillent 15 jours par an pour Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils font le résultat? Le reste du temps, ils sont astreints à étudier parce que c'est eux qui doivent enseigner. L'essentiel de ce que font les Kohanim, c'est l'étude et l'enseignement. C'est ça leur job. C'est pas du tout. Et quand on sera à Mamlechet Kohanim de Goel Kadosh, ce sera comme ça. Tout le monde va devoir. C'est ce qui est fondamental, c'est. Mon maître m'avait dit que c'est pas qu'on a une mitzvah d'étudier la Torah. La Torah, elle doit être étudiée, elle doit être répandue, elle doit être développée. C'est un combat à tout le monde. Si tu peux, tu dois. Tu peux pas être quelqu'un qui peut. C'est ta façon à toi de. L'important, c'est que ce soit étudié. Sinon. Là, la Gemara, elle raconte l'histoire du fils et du père, là. Ils n'avaient pas les moyens d'aller tous les deux étudier. Alors, le père, il a envoyé son fils, il a dit, tu vas là-bas et tu étudies 5 ans, puis on verra comment ça va. Et au bout de 5 ans, le fils, il n'a pas beaucoup avancé. Le père a dit, OK, alors, c'est moi qui vais étudier, c'est toi, tu vas, je sais pas, tu vas gérer les poules ou les, je sais pas ce qu'ils avaient comme, industrie, ou bien alors c'est de la recherche nucléaire, je sais pas, mais bref, c'est toi qui travailles et moi je vais étudier. Tu vas m'entretenir. Voilà, il y a toute une histoire là-bas, mais parce que ça n'a pas d'importance en fait. Je dois y aller, il faut que la Torah soit enseignée, il faut que la Torah soit répandue, il faut qu'elle se développe. C'est un combat, tout le monde. Ça pas, moi, ça me dit rien, ok? Ok, t'as un plus. Oh. Alors, finance quelqu'un qui va le faire. Ne pas le faire directement, fais-le faire par quelqu'un. C'est presque comme si, bon, finalement, c'est un peu la même chose. L'essentiel, c'est que ça soit étudié. Cette construction du Mishkan, Trumi Trem Truma Lachem, Kol Nediv Libo Yevia, Trumat Hashem, Zahav, Bachesef Unchoshet. Prenez pour vous un prélèvement pour Hashem, tout celui que son cœur motive. Il doit amener un prélèvement, comme un cadeau pour Hachem, en quelque sorte. Que ce soit de l'or, de l'argent, du bronze, du cuivre, ou de la laine, des colorants, enfin, tout ce que vous. Dans la paracha de la semaine prochaine, la Torah, elle va répéter plusieurs fois que tout dans le Mishkan et dans le Kélim, tout a été fait. Kasher tziva Hashem et Moshe. Comme Hashem l'a ordonné à Moshe. Chaque chose est fait comme Hashem l'a ordonné à Moshe, comme Hashem l'a ordonné à Moshe. Si le Mishkan n'avait pas été fait de cette manière-là, il n'aurait pas pu être la résidence pour la Shrina, pour la présence divine. Et puis, ce qui est très important, c'est que il y a cette notion de Kol Nediv Libo. C'est-à-dire, Hachem aurait très bien pu ordonner à tous les Juifs de contribuer avec 10 shekels, comme il a donné l'ordre du Martsita shekel pour les korbanot du Tzibour. Il aurait pu donner l'ordre pour la construction du Mishkan. Chacun donne 10 shekels, bon, peu importe. C'est pas ça que vous lâchez. Il voulait que chaque don dans la construction du Mishkan soit volontaire. Le Ramban explique pourquoi ça devait être comme ça. La Torah, elle nous dit que tout celui que son cœur motive à donner, il doit l'amener et Troumat Hashem. Le mot être ici, comme souvent, il veut dire avec. C'est-à-dire, il doit donner avec le prélèvement d'Hachem. C'est-à-dire, il doit donner avec Hachem, en quelque sorte. Celui qui donne, il donne Hachem aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut lire le verset de la manière suivante. Toute personne que son cœur motive, qu'il doit amener la Shrina ensemble avec ce qu'il donne, que ce soit de l'or, de l'argent ou du cuivre. Donc le Ramban explique que ce sont les hommes, quand ils donnent, ils doivent amener la Shrina avec eux. Comment on peut amener la Shrina dans le Mishkan? C'est un midrash dans Shirashirim, Yashraba. Il dit que Akadosh Baruch Hu est appelé le cœur d'Israël. Ça veut dire qu'Hachem réside dans nos cœurs. Donc quand un juif est poussé, il a une motivation pour faire un don, en fait, il est en train de donner Hachem. Également, pas simplement l'or, l'argent, le cuivre. Ça veut dire que quand il amène son don pour la construction du Mishkan, la Shrina vient avec lui. C'est-à-dire qu'en vérité, donner, c'était ce qui va permettre de mettre la Shrina là où elle peut résider. Ça veut dire que la construction du Mishkan, quand elle a été faite exactement, selon le tout dernier des détails, exactement sur l'ordre d'Hachem, c'était une démonstration de ce qu'on appelle Yirat Hachem, la crainte révérentielle d'Hachem. En donnant volontairement les dons matériels pour la construction, il manifestait l'amour du clan d'Israël pour Hachem, en fait. Donc, il y avait une combinaison de Yira et de Ahava pour créer justement cette drôle de chose qui s'appelle une résidence pour Hachem. En fait, chaque mitzvah requiert ces deux aspects, en fait. La mitzvah, elle doit être faite avec Yira, parce que comme je vous ai dit, je suis en train de faire les choses qu'Hachem m'a ordonnées. Donc, c'est comme... Mais il faut arriver à le faire avec la Yira, avec la crainte révérentielle nécessaire, mais aussi avec amour, avec une volonté, un désir de servir Hachem. Et le Mishkan, c'est ça l'exercice qui doit être un exercice pour toutes les mitzvot. Cet exercice, on le fait ou on l'a fait avec la construction du Mishkan. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si vous voulez, Moshe Rabbeinu, il avait déjà dit à Hachem, quand Hachem lui a dit qu'il devait construire le Mishkan, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Il a dit, le ciel et les cieux du ciel ne peuvent pas te contenir et tu me demandes de construire un petit endroit là pour te contenir. Hachem lui a dit, toi tu fais tes petits trucs, ta maquette. Et moi, je me débrouille déjà pour... Voilà. Parce qu'on sait que Hachem, quand il parlait avec Moshe Rabbeinu dans le Mishkan, je vous ai dit que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. C'est le cas parce que Hachem parle à Moshe Rabbeinu, il parle quand, dans le Mishkan. Moshe Rabbeinu entre dans le Mishkan et il entend la voix d'Hachem qui semble provenir d'entre les deux Kruvim, entre les deux chérubins qu'il y a sur le Aaron, il semble que la voix vienne de là. Et donc, ça veut dire, c'est le Sinaï, quoi. Donc, Sinaï, Hachem a parlé. Hachem continue de parler à Moshe Rabbeinu pour qu'il le transmette, enfin, qu'il transmette certaines choses au clan d'Israël. Et la résidence, c'est, voilà, entre les Kruvim, quoi. Bon, évidemment qu'Hachem n'a pas de problème de volume. On sait très bien que dans le Beth Amikdash, qu'on fait les comptes, un compte de l'occupation du sol, on voit très bien que ça marche pas. Bon, si on fait le total de la largeur de chacun des éléments, ça entre pas dans le... Donc il y a des choses qui prennent pas de place. C'est ça, on va s'arrêter là.